Vous écoutez RTL. Suite du grand jury, RTL, Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, Jean-Pierre Raffarin, sénateur de la Vienne, ancien Premier ministre. Le débat est dirigé par Elisabeth Martichoux.
Bonjour à tous, on va commencer par le commencement. Début du grand jury, désormais vous le savez, tous les dimanches à 12h30, grand jury RTL, Le Figaro LCI. Notre invité aujourd'hui, c'est Jean-Pierre Raffarin. Bonjour à vous.
Bonjour et à ceux qui nous regardent, bon appétit donc, puisque c'est une initiative de parler en milieu de journée.
Exactement. Vous êtes sénateur de la Vienne, président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées au Sénat. Vous avez d'ailleurs passé presque 48 heures avec Jean-Yves Le Drian cette semaine. C'est intéressant dans la perspective du changement de pied de la France en ce qui concerne les frappes en Syrie. Vous nous direz si vous avez fait des confidences. Et puis vous êtes bien sûr ancien Premier ministre pour vous interroger. Aujourd'hui, Christophe Jakubizine, bonjour à vous, bonjour. Chef des services politiques de TF1 et LCI, et Alexis Brézet, directeur des rédactions du Figaro. Bonjour.
Bonjour.
On va entrer de plein pied, monsieur le Premier ministre, bien sûr, dans le dossier des migrants. Une petite question un peu plus personnelle. À cette occasion, le Premier ministre finlandais, le Manuel Valls finlandais, a déclaré il y a un peu plus de 24 heures qu'il accueillait, qu'il se proposait d'héberger des réfugiés politiques dans sa maison. Est-ce que vous, depuis le début de cette crise des migrants, peut-être en voyant la photo du petit Elan, vous vous êtes dit cette semaine, ben oui, moi je suis prêt, je vais aussi héberger une famille ou un réfugié politique chez moi?
Vous savez, c'est une affaire extrêmement grave. J'ai été, je crois, l'un des premiers à dire, il y a déjà plusieurs mois, qu'il fallait que les communes de France soient dans une phase de préparation, que cette situation interpellait chacun d'entre nous. Donc il faut que chacun apporte en effet une réponse personnelle. Il y a plusieurs manières de faire ça, mais pour être très franc avec vous...
Oui.
Moi, je suis chrétien, je suis engagé sur cette affaire depuis longtemps.
C'est pour ça qu'on vous pose la question. Vous êtes dans du courant humaniste des Républicains.
Et tout ce que je peux faire sur ces sujets, comme sur d'autres, je le fais personnellement.
Vous ne le dites
pas.
C'est
la sphère privée. Ouais. Je pense que nous sommes engagés.
C'est une forme de démagogie, peut-être même d'ailleurs, de l'afficher ou pas ?
Je pense qu'il faut avoir une certaine forme de réserve sur ce que nous faisons personnellement sur ce type de sujet. Il est clair que nous sommes engagés, que nous avons, dans cette situation, je dirais, un double don à assumer. Vis-à-vis de ceux qui souffrent et qui sont dans cette tempête personnelle. On a le don de la paix immédiate, parce qu'ils sont dans des situations de guerre. Donc il faut qu'on leur apporte la sérénité. Le don de la paix immédiate. Et puis ensuite, on a ce don de l'avenir. Il faut qu'on puisse les intégrer, il faut qu'on puisse leur proposer un avenir.
Comment.
On y reviendra.
Mais
cette idée-là, qui est une idée... de mon point de vue chrétien, de double don.
Mais il y a une forme d'exemplarité aussi qu'attendent les citoyens vis-à-vis de leur politique. Le fait qu'on montre l'exemple quand on a des responsabilités, ça a un sens aussi aujourd'hui. Ils attendent ça, les Français.
Je pense que le problème est aujourd'hui massif, que c'est un sujet qui nous interpelle tous, y compris sur le passé. Je crois que la guerre crée l'immigration. Et donc on va parler des
frappes.
On va y venir.
Donc il y a un certain nombre de sujets... Qui sont aujourd'hui de la responsabilité politique.
Dans
cette crise,
on va prendre
la politique
temps,
doit être
Raffarin.
Au bon niveau.
Alors, justement.
Voilà, vous l'évoquiez à l'instant, avant l'été, vous aviez dit, et ça avait fait pas mal de bruit, ça avait été diversement apprécié, notamment à droite, vous aviez dit, il faut que les villages, les petits villages, où il n'y a pas beaucoup d'habitants et pas beaucoup d'enfants dans les écoles, se préparent à accueillir des réfugiés. Est-ce que vous le redites aujourd'hui d'autant plus fort?
Je pense que nous devons... là où c'est possible, faire en sorte qu'on puisse accueillir. Ça veut dire quoi, ça ? D'abord, je pense qu'il faut un principe philosophique. Il faut une ligne directrice. Ce qui manque peut-être dans notre pays, c'est qu'on ne dit pas suffisamment les choses. Pour moi, l'humanisme, qui est mon engagement, c'est l'accueil pour l'avenir. Les deux points sont très importants. Ça, c'est la ligne directrice. Ensuite, il faut un certain nombre de principes. Je pense par exemple au principe qu'il ne faut... L'adversaire de l'intégration, c'est la concentration. Donc, dès que vous dépassez 1% de la population quelque part, vous créez des problèmes. Donc, je pense qu'il faut mener des actions ponctuelles, capables d'aboutir à de l'intégration.
Mais c'est pour Monsieur le Premier ministre, vous parlez de lignes, mais par exemple François Baroin, qui est maire de Troyes, qui est aussi le président de l'association des maires de France, dit que pour sa part, il n'accueillerait pas de migrants dans sa ville.
Ça le regarde. C'est une question qui est de sa responsabilité. Je n'ai pas à contester sa responsabilité. Je crois qu'il faut qu'on ait un débat politique sur le sujet.
Vous avez été choqué quand il a dit ça hier ?
Non, franchement, il faut respecter tout le monde dans cette affaire. C'est une affaire extraordinaire parce que c'est assez facile de se faire de la publicité sur le bon cœur aujourd'hui. Donc, il faut être à la bonne altitude sur ce sujet.
Daniel Cohn-Bendit, il faut parler d'ignominie à propos de ce qu'a dit François Baroin.
Je pense que toutes ces insultes qui peuvent venir d'un côté ou de l'autre ne sont pas à la hauteur de la dimension. Prenons cela avec sagesse et responsabilité. On a
Il faut agir.
Mais agir pour donner et de la paix immédiate, mais aussi un avenir. Si c'est pour conduire des gens dans des situations d'impasse extrêmement douloureuses, où est la responsabilité ? La responsabilité est de faire en sorte
si
qu'on accueille, mais qu'on donne aussi la
vie. Juste une seconde. Le pape, par exemple, puisque vous avez dit que vous aviez ces convictions chrétiennes, vous ne vous en cachez pas. Le pape, à l'instant, vient d'appeler toutes les églises, les communautés,
les paroisses
catholiques d'Europe à accueillir une famille. Donc là, il y a un message qui est clair.
Je crois qu'un chrétien se doit, en effet, d'accueillir. Ça fait partie de sa conviction profonde. Donc je trouve que c'est...
Et les républicains ?
Cet appel à la responsabilité personnelle est quelque chose de très important. Je crois que les solutions de concentration sont des solutions qui nient l'intégration. Donc à partir du moment où vous dispersez, où vous enracinez, où vous faites en sorte qu'il y ait des dimensions humaines à l'aptitude de traiter le problème, vous pouvez traiter le problème.
Donc là, vous dites aux gens qui nous écoutent et qui peuvent habiter dans des petits villages, vous leur dites, vous allez devoir accueillir...
À hauteur de 1% de la population.
Je dis simplement que ce qui devrait être engagé aujourd'hui dans notre pays, c'est d'abord une politique nationale qui devrait être menée. Moi, je pense qu'on a un vrai problème aujourd'hui sur ce discours, et il manque souvent de vérité. Donc je pense qu'il devrait y avoir une personnalité de premier plan, qui devrait être un haut commissaire aux réfugiés, qui devrait être quelqu'un de désigné et qui assume une incarnation d'une politique et qui puisse donner une parole de vérité. Par exemple, je vous le citais, chez moi, dans mon département, dans la ville de Loudun, nous avons
procédé
un centre d'accueil des demandeurs d'asile.
Des réfugiés politiques.
D'asile, en attente de ce que leur dossier soit traité. Il y avait un projet de 80 personnes. Et puis, dans une émission de radio, un des responsables annonce que ce centre est fait pour 300 personnes. Alors, c'est 80 ou c'est 300? On fait peur à la population. Moi, je pense qu'il faut un discours qui soit un discours national, qui soit un discours de vérité et qui puisse être incarné. Oui, c'est pas à chaque maire aujourd'hui de dire ce qu'il doit faire. C'est une politique nationale qui doit organiser
en fonction... Donc vous voulez un ministre dédié aux réfugiés d'aujourd'hui.
Plus que le ministre, ce qu'il faut, c'est une politique nationale de l'accueil.
Mais
de double accueil, l'accueil avec la paix immédiate et l'accueil avec la vie.
Mais vous parliez de vérité, monsieur le Premier ministre. Vous parliez de vérité. La vérité, c'est qu'on a affaire à un mouvement de migration, d'asile, de réfugiés politiques sans équivalent depuis des décennies. Absolument. On parle d'un potentiel de 4 millions de migrants syriens si la guerre continue. On ne parle pas de migrants économiques, on parle bien de migrants politiques. Qu'est-ce que l'Europe va faire avec 4 millions de réfugiés potentiels ?
Encore que, très franchement, sur cette distinction, il y aurait beaucoup de choses à dire. Parce qu'il y a des gens qui sont dans des crises économiques, on n'est pas loin de la condition politique.
Bien sûr.
Je trouve cette différenciation très utile, l'asile d'un côté. Mais il faut bien savoir quand même que les problèmes de frontières ne sont pas... Moi, personnellement, aujourd'hui, quand j'écoute le débat, quand je vois ce dont nous avons besoin au niveau de politique européenne, et je salue Michel Barnier qui est ici, on voit qu'on a besoin de l'Europe, moi, je vais vous dire, je pense que pour tout ce qui est des étrangers réfugiés, comme immigrés économiques aujourd'hui, le temps des quotas est venu. Le temps des quotas est venu pour les réfugiés aujourd'hui, donc. Ce qui nous permettra d'avoir une politique organisée, de savoir où nous allons, avec un discours de responsabilité, ce qui permettra de dire aux gens, il y a des limites, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, donc on plafonne, il y a des quotas. Mais puisqu'on est sur ce sujet-là, et sur les autres sujets de l'immigration, je crois qu'il nous faudra un jour ou l'autre aussi une politique de quotas, je dirais, à la canadienne. Je pense que aujourd'hui, le débat est posé.
Vous nous rappelez ce que c'est les quotas à la canadienne?
C'est qu'au fond, le pays accueille ceux qu'il est capable d'intégrer. Donc on a besoin de médecins, on a besoin de jeunes pour les étudiants, on a besoin d'ouvriers agricoles, on a besoin X ou Y. On fait en sorte qu'on accueille ceux auxquels on donne un avenir.
Mais ça, c'est un peu
donner la paix sociale,
avec la notion,
mais donner en même temps l'avenir.
Cette affaire de quotas par profession est contradictoire avec la notion de réfugié politique, ou par définition.
Non, mais là, j'ai parlé des étrangers économiques.
Ah, d'accord.
Mais
okay.
Puisqu'on parle de quotas aujourd'hui, je crois que le temps est venu de faire en sorte que l'idée de quota puisse imposer l'idée dans l'opinion qu'une politique
alors justement, juste,
d'immigration,
alors,
quelle qu'elle soit,
l'opinion,
est une
alors,
politique maîtrisée. Tout le problème aujourd'hui de la peur, c'est la non-maîtrise. Alors, et c'est parce que ce n'est pas maîtrisé que l'opinion publique est inquiète.
Alors voilà, effectivement, parce que l'opinion pour l'instant n'est pas absolument enthousiaste. Il y a ce sondage ce matin dans le Parisien, 55% des Français qui sont contre l'assouplissement des conditions d'accueil des Syriens, et 62% qui disent qu'il faut les traiter comme des migrants pour les autres, il n'y a pas de raison d'avoir un régime de faveur. Comment vous réagissez à ça?
Je pense que le droit d'asile fait partie non seulement de notre histoire européenne, mais de notre histoire française.
Et que sur l'état d'esprit des Français, par rapport aux Allemands, par exemple.
Il y a une offre politique aujourd'hui en France qui est le Front National, où c'est le refus absolu d'une migration, même une migration politique. Qu'est-ce que vous dites aux électeurs, aux Français qui sont tentés d'aller vers ce vote parce que ça leur semble plus protecteur?
Très sincèrement, je pense que c'est un sujet sur lequel le débat était très difficile en France. Peut-être.
Que les circonstances vous en parlez actuelles, à l'imparfait
oui, parce que les conditions aujourd'hui d'émotion, de gravité, font que les lignes peuvent bouger.
Vous êtes optimiste.
Mais vous savez, quand j'ai dit que des communes pouvaient accueillir un certain nombre de réfugiés, j'ai vu sur Internet une radicalisation extrême, des gens qui me disaient, mais laissez-les mourir en mer. On avait une violence extraordinaire.
Et un avant et un après-photo.
C'est un débat, si vous voulez. Est-ce qu'on peut avoir un débat raisonné, responsable sur le sujet? Est-ce qu'on peut avoir autre chose que des postures?
Un débat, par exemple, à l'Assemblée nationale, au Parlement?
Moi, je demande une politique nationale. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas être dépendant de Mme Merkel, dépendant des événements.
François Hollande, il est à la remorque.
On a une situation.
Il est à la remorque d'Angela Merkel.
Je veux pas. Franchement, la situation est trop grave.
Mais il a annoncé un mécanisme européen obligatoire.
La situation est
très difficile. Après la photo.
La vérité, c'est que ni vous, les médias, ni les politiques, ni même les Français, on était prêts à faire face à cette situation. Donc, il est clair qu'aujourd'hui, on est dans une situation incertaine. Ce que j'appelle, c'est que on est certes un débat, mais pour définir une politique nationale qui puisse faire appel à un certain nombre de volontaires qui veulent participer, le tout organisé avec naturellement l'appui du Parlement et avec une personnalité responsable aux yeux des Français pour donner
quotas,
une parole de vérité.
Les quotas, vous nous dites aujourd'hui, il faut passer par des quotas, c'est un changement. Il y a encore 2-3 mois, la gauche, le président de la République était contre les quotas, et il vient sans prononcer le mot de s'y rallier, et la droite était contre les quotas. Et le grand argument à l'époque, c'est de dire, mais les quotas, c'est un appel d'air. Est-ce qu'aujourd'hui, vous dites, finalement, cet argument, on a eu tort de le mettre en avant, il n'existait pas?
Je pense que face à la situation, nous sommes obligés d'avoir une action commune, communautaire, c'est-à-dire une action européenne. Et quand vous voulez partager une action, il faut bien répartir les efforts.
Vous ne répondez pas sur l'appel d'air,
pardon.
La droite et la gauche disaient, c'est un appel d'air si on fait des quotas.
Si vous voulez avoir une politique européenne, il faut partager l'effort. Et en partageant l'effort, on a besoin de répartir les efforts de chacun.
Quel que soit le risque, y compris celui de l'appel d'air, c'est ce que vous dites.
C'est pour ça que je crois qu'une politique de quotas montre bien que nous sommes capables d'accueillir, mais dans certaines proportions, avec certains plafonds, et que nous voulons accueillir ceux que nous pouvons intégrer.
On verra
cette limite-là.
Est-ce que les critères qui ont été déterminés par Jean-Claude Juncker, au nom de la Commission européenne, vous semblent pertinents, c'est-à-dire niveau de chômage, évidemment démographie,
Pense que c'est à discuter, mais je suis satisfait de voir que Jean-Claude Juncker et la Commission européenne, sur ce sujet, a pris un certain nombre de devants.
Qu'est-ce qu'on fait avec les pays de l'Europe orientale qui ne veulent pas la Hongrie, la Tchéquie, eux disent non, ils disent nous on ne veut pas.
Je vois bien qu'il y a des grandes différences, mais ce n'est pas d'aujourd'hui, ça, ces différences européennes sur les problèmes de migration. On voit bien que Schengen est à repenser d'une certaine manière. Donc
on peut les forcer parce qu'on dit que c'est obligatoire, mais est-ce qu'il n'y a pas de moyen d'obliger un pays
Mais ça, c'est tout le problème de la construction européenne depuis un certain temps, c'est que on ne peut avancer que par des efforts de conviction.
Ça va prendre du temps.
Ça prendra forcément du temps.
Mais il y a une urgence.
Mais il y a une urgence. Mais ne faisons pas semblant de régler les problèmes comme ça. Vous voyez bien qu'on nous a dit très souvent, et je me souviens quand j'étais aux côtés de Jacques Chirac et que M. Bush nous disait qu'il fallait intervenir en Irak parce qu'on réglerait tous les problèmes, je me souviens très bien qu'il y avait beaucoup de gens qui disaient « Allons, on va régler les problèmes ». Et au total, cette intervention a créé plus de problèmes qu'elle n'a apporté de solutions. Et donc je reste convaincu que c'est la guerre aujourd'hui, le premier facteur des migrations.
Monsieur le Premier ministre, justement, vous parliez de la période Chirac. Est-ce que vous vous sentez responsable, comme les autres premiers ministres qui vous ont suivi, de l'état de notre pays, qui fait qu'aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe en Allemagne, leur capacité économique d'intégrer davantage de population, l'accueil des citoyens allemands envers les immigrés, on a presque honte notre pays et on se dit... Pourquoi tant de politiques nous ont conduits pendant 20 ans à être dans cet état aujourd'hui ?
Franchement, je veux bien accepter mes torts, mais prenez votre part, vous les médias. Parce que si depuis 10 ans, avec le Front National, avec toute la communication, on ne peut pas parler d'immigration, si on a cette radicalisation du débat, si on est dans cette situation, toute la société est bien complice
de tout ça.
C'est
aussi parce qu'il y a 3 millions de chômeurs.
C'est parce que chez nous, on a pris en otage le dossier de l'immigration. Et prenant en otage, on en a fait des intérêts politiques. Et au fond, on n'a pas eu le débat serein. Et donc, je crois en effet que nous, politiques, nous avons nos responsabilités.
Jean-Pierre Raffarin,
et c'est un échec.
C'est un échec
de ne pas avoir réformé le pays, par exemple.
C'est pas un risque de faire monter le Front National ?
Mais madame, aujourd'hui, les solutions doivent être apportées à des problèmes qui posent l'humanité. Le Front National, c'est certes un sujet très important, mais aujourd'hui, ce n'est pas la question politique qui est posée à ceux qui sont animés
vous dites
par
qu'il faut
une
être
pensée
à la hauteur.
Éthique.
Alors, on va maintenant parler, je disais que tout à l'heure, vous étiez, je disais tout à l'heure que vous aviez passé 48 heures avec Jean-Yves Le Drian, peut-être vous en a-t-il parlé. François Hollande serait sur le point de changer de pied en ce qui concerne la stratégie vis-à-vis de la Syrie et de Bachar el-Assad. Il pourrait demain, dans sa conférence de presse, se prononcer en faveur de frappes aériennes, ou en tout cas de survols aériens.
Jusqu'ici, on ne frappait
pas,
qu'en Irak.
Alors qu'on ne frappait qu'en Irak, en effet. D'abord, est-ce que vous y êtes favorable et est-ce que ça sert à quelque chose ? Bruno Le Maire, ici même, au Grand Jury la semaine dernière, appelait à des frappes, à une intervention au sol pour lutter
d'abord,
contre Daesh.
Je suis en effet allé avec Jean-Yves Le Drian en Malaisie, où on a actuellement une négociation pour les ventes d'armes, et j'ai voulu montrer, Jean-François Lamour participait à cette mission, il est ici, nous avons voulu montrer que quand il s'agit des intérêts de la France, quand il s'agit des grands dossiers, majorité et opposition, on doit être capable de travailler ensemble. Et c'est pour ça que j'ai participé, je suis allé voir le Premier ministre de Malaisie avec le ministre de la Défense. C'est parce que les sujets de politique étrangère et les sujets de défense, de mon point de vue, doivent être à l'abri des polémiques inutiles. En ce qui concerne le dossier, aujourd'hui je crois que la première des constatations, c'est que la frontière irako-syrienne était devenue très incertaine. Nous sommes sur un dossier aujourd'hui, de par la faute de Daesh, qui est un sujet très très mêlé. Je pense que nous avons en effet, avec la coalition, déjà fait un certain nombre d'interventions aériennes en Irak. Je ne suis pas opposé à ce qu'il y ait des cibles aériennes qui soient définies en Syrie. Le tout à l'intérieur de la coalition et selon...
Mais objectivement, ça ne changera pas grand-chose. Ça changera pas grand-chose. La France n'a pas des moyens tels
personnellement,
pour
je sais qu'il y a débat sur le sujet, mais personnellement, je suis vraiment très réservé sur une intervention au sol. J'ai cette culture chiracienne que vous avez vu s'exprimer sur le dossier irakien.
Et Bruno Le Maire ne l'a plus, apparemment, cette culture chiracienne.
Je pense vraiment, il était pourtant proche de Dominique de Villepin, qui était sur cette ligne à ce moment-là. Il y a, je crois, une vérité qu'il faut bien mesurer, c'est que la situation aujourd'hui politique, dans nos accords diplomatiques n'est pas stabilisé. Mmh. Je veux parler de notre relation avec la Russie, de notre relation avec l'Iran. Dans ce contexte-là, je crois qu'il faut éclaircir la situation, car ce sont des acteurs de premier rang avec lesquels il faut avoir un certain nombre de discussions
Alexis
pour qu'ils puissent avoir des interventions territorialisées.
Donc il faut d'abord renouer avec la Russie. Ça veut dire arrêter les sanctions.
Je pense qu'il faut avoir un dialogue avec Poutine qui ne se résume pas à la question de la Crimée.
Mais pour que nos auditeurs comprennent bien,
fondamental sur la Crimée, mais nous avons un certain nombre d'intérêts communs avec la Russie dont il faut parler et il faut faire en sorte.
Pour que nos auditeurs et téléspectateurs comprennent bien, la Russie.
Je fais ce que je peux pour qu'ils comprennent bien.
Mais ils n'ont pas votre background en matière de géopolitique. Il faut que le dialogue soit renoué avec la Russie pour que éventuellement ensuite, on commence d'ailleurs dialoguer avec l'Iran et intervenir en Syrie. C'est la condition sine qua non.
Je pense que c'est un préalable de toute façon. Et je pense que là, il faut pouvoir discuter. D'une manière, on y reviendra, mais je pense que la politique étrangère de la France sur ces sujets mériterait clarification. Je crois qu'on ne peut pas rester sur un ni.
Mais on n'en parle pas Daesh, face
ni
à Daesh.
Ça,
je pense on est en train, là, c'est peut-être encore une révision voilà, de plus, voilà, mais là, la révision voilà, est en train d'être accomplie.
Je pense qu'on ne peut pas rester dans cette situation, ni Bachar, ni Daesh.
Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le soutien à Bachar, finalement...
Ça veut dire qu'il faut hiérarchiser les priorités. Donc ça ne veut pas dire qu'on va être l'allié de l'un et adversaire de l'autre, mais ça veut dire qu'il faut hiérarchiser...
Si ce n'est pas l'ennemi, ça veut dire qu'on est l'allié d'un des deux.
On ne peut pas les mettre, tous les deux, toujours sur le même plan.
Ce que fait Laurent Fabius, c'est la doctrine Laurent Fabius.
Je pense aujourd'hui que nous avons, de manière générale, si vous me permettez une seconde sur ce sujet, je crois que... essentiellement, nous avons besoin d'une clarification avec les États-Unis. Je crois que nous voyons bien qu'avec les États-Unis aujourd'hui, nous avons un certain nombre de différends qu'il faut clarifier. On voit que les États-Unis jouent un rôle majeur dans la relation avec la Russie. Nous voyons bien qu'il y a la question de l'OTAN en Ukraine qui nous est posée et qui complique le dossier. Nous avons fait un effort important que je salue, qui est le format Normandie pour Minsk. Mais on voit bien qu'il y a toujours...
Vous voulez dire qu'il ne nous facilite
derrière,
pas la vie, les Américains.
Il ne nous facilite pas toujours la vie. Sur le dossier...
Donc il nous entraîne contre Poutine, ce qui ne serait pas notre intérêt. C'est ça votre idée.
Je pense que nous devons revenir à l'indépendance de la politique de la France. La France est forte quand elle est indépendante.
Mais vous avez demandé à
le dossier ukrainien, le dossier iranien, le dossier israélien, sur un certain nombre de dossiers. La France doit réaffirmer ses vertus d'indépendance. Et aujourd'hui, je pense que c'est ça la priorité pour nous et que pour les interventions au sol, les conditions ne sont pas aujourd'hui réunies.
C'est une chose de dire que les conditions ne sont pas réunies. Après, l'autre question, c'est est-ce qu'un jour ou l'autre, on pourra faire l'économie d'une intervention au sol ? Quand on regarde un an de guerre contre Daesh, on se rend compte que la coalition n'a pas progressé d'un pouce.
Est-ce qu'on ne manque pas de courage face à Daesh aujourd'hui ? Beaucoup se posent la question.
Je ne le crois pas. Très franchement, on ne peut pas faire de reproche à la France sur ce sujet. Je suis de très près la politique de renseignement. Je suis le président de la délégation parlementaire au renseignement. Nous avons encore passé une journée cette semaine sur ces sujets-là avec tous les services français. Je peux vous assurer que nos services sont extrêmement courageux, sont engagés aujourd'hui dans des situations périlleuses pour surveiller, pour...
Non, mais il ne s'agit pas du courage individuel des militaires.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que politiquement, nous faisons le travail qui me paraît prioritaire aujourd'hui, c'est-à-dire le terrorisme. Sur ce qui est du terrain, je ne crois pas que la France soit la mieux placée pour conduire un leadership en cette matière.
Donc le boulot, c'est plutôt la Russie qui peut le faire avec des alliés régionaux.
Je pense qu'il faut, dans la coalition, et il faut voir avec l'Iran... comment l'Iran envisage l'avenir de la région. Je pense que sur ces questions-là, la France n'a pas un leadership à assumer aujourd'hui. Nous avons des questions qui nous sont posées et je crois qu'il faut commencer par une clarification avec les États-Unis. De mon point de vue, je crois que le président Hollande aurait intérêt à avoir un sommet avec le président Obama, car nous avons besoin d'articuler. Les États-Unis sont nos alliés, mais nous devons clarifier un certain nombre de sujets.
Ils sont très, très, très réticents vis-à-vis d'une intervention.
C'est pour ça que je pense qu'il faut une clarification au niveau le plus élevé de l'État.
Voilà, vous demandez à François Hollande, on verra si demain, d'ailleurs, il a une déclaration dans ce sens au cours de sa... conférence de presse. Justement, François Hollande, on va se recentrer sur la politique franco-française. Il est en fonction depuis maintenant presque 3 ans et il a fait un mea culpa vous l'avez sans doute vu, dans un livre signé Françoise Fressoz, notre conseillère du Monde, dans lequel il regrette d'avoir finalement rebaissé la TVA de 2 points lorsqu'il est arrivé. D'abord, le principe même du mea culpa d'un président en fonction, c'est bienvenu, c'est habile.
Je pense qu'aujourd'hui, dans la communication du président, il y a beaucoup d'habileté. Et donc, nous avons besoin aujourd'hui d'un président fort. Je ne crois pas que le rôle de l'opposition aujourd'hui soit de fragiliser nos institutions et la fonction présidentielle. Très franchement, nous sommes dans une situation extrêmement grave. Ce dont nous parlons sur les réfugiés, il faut l'intégrer aussi sur le plan politique. On ne peut pas dire, maintenant on a fini de parler des réfugiés, continue ça. Je pense que nous sommes en guerre. Nous avons des problèmes humains, humanitaires qui sont posés, qui sont majeurs. Donc nous devons garder une certaine sagesse, une certaine altitude dans nos débats. Je trouve que le président de la République a la parole un peu légère, un peu stratosphérique. Et ce que j'attends de lui, c'est des lignes claires et qu'il assume la fonction pour laquelle il a été élu. Nous avons besoin d'un président de la République fort aujourd'hui.
La parole un peu légère, ça veut dire que François Hollande n'a toujours pas habité la fonction du président ?
Je pense que nous sommes entrés trop tôt dans la campagne présidentielle et que, au fond, aujourd'hui, la question n'est pas la campagne présidentielle de 2017, ni pour la droite, ni pour la gauche, mais pour la France. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est d'avoir des lignes claires. Je vous le disais, en politique étrangère, il faut sortir de certaines ambiguïtés. Pour le reste, sur le plan économique, on en parlera. Il faut engager un certain nombre de choses de manière urgente. Donc nous avons besoin d'une sorte d'esprit civique national aujourd'hui où le président de la République doit conduire le pays.
Juste pour la stature justement, on vous donne la primeur d'un sondage IFOP pour RTL et Le Figaro à la question est-ce que le président Hollande est meilleur aujourd'hui, notamment après les événements du 7 janvier, qu'il ne l'était en début de mandat. 62% des Français estiment que non. Est-ce qu'il sera candidat ? 70% des Français sont convaincus que oui, contre 44% il y a un an. Donc il y a une lucidité des Français par rapport à la nature des déclarations et des annonces de François Hollande. Voici absolument certain qu'il sera...
Ce n'est pas une bonne nouvelle pour la France que le président de la République soit dans une position faible. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Nous sommes en situation difficile et un président faible, avec un certain nombre d'ambiguïtés stratégiques aujourd'hui, y compris dans sa propre majorité, ce n'est pas une bonne nouvelle.
Mais vous pensez comme les Français qu'il sera candidat ?
Très franchement, ça m'est égal aujourd'hui. Très franchement, la question pour moi, c'est que les élections présidentielles, c'est très très loin. Quand je vois les menaces terroristes...
Ça vous est égal que François Hollande se présente ou pas ?
Aujourd'hui, ce n'est pas la question.
Qu'il soit réélu ou pas ?
Ça n'a pas d'importance. Je ne serai pas favorable à sa candidature.
Non,
je ne serai pas dans sa campagne égale, je vous rassure. Mais franchement, aujourd'hui, quand je vois les menaces terroristes qui pèsent toujours sur notre pays, quand je vois les défis humanitaires que nous avons affrontés, quand je vois la difficulté de la politique économique, quand je vois ce spectacle ridicule qui manque de lucidité qu'on a mené sur le remplacement du ministre du Travail alors que c'est le premier dossier, quand je vois cette situation-là, je dis au fond, ce qui compte aujourd'hui, c'est que nos institutions fonctionnent et que le président assume. C'est ça l'essentiel. L'élection présidentielle, nous verrons le moment venu, c'est pas le sujet.
On va y revenir sur le drame du chômage parce que ça c'est un sujet, ça reste le sujet prioritaire aussi de préoccupation des Français. On va y revenir dans la deuxième partie du grand jury. Jean-Pierre Raffarin, je vous rappelle que vous pouvez réagir à toutes les déclarations depuis le début de l'émission de l'ancien Premier ministre. Hashtag le grand jury et Benoît Galeret de LCI-RTL viendra juste avant la fin de l'émission se faire l'écho, Jean-Pierre Raffarin, de ce que disent nos internautes, auditeurs, téléspectateurs de vos déclarations. A tout à l'heure, ou plutôt à tout de suite.
Suite du grand jury, RTL, Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, Jean-Pierre Raffarin, sénateur de la Vienne, ancien Premier ministre. Le débat est dirigé par Elisabeth Martichoux.
Avec Alexis Brézet, directeur des rédactions du Figaro, et Christophe Jacubizine, chef des services politiques de TF1 et LCI. Effectivement, vous, auditeurs, téléspectateurs, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux. Benoît Galeret, vous nous direz dans une vingtaine de minutes ce que les internautes pensent des déclarations de l'ancien Premier ministre. Comment font-ils ? Rappelez-nous le mode d'emploi.
Eh bien, vous tweetez tout simplement avec le mot dièse le grand jury. Moi, je surveille tout ça. Et puis, je regarde de vos messages plus ou moins brillants et j'en ferai un condensé à la fin de l'émission devant monsieur Raffarin. On aura comme ça un premier ressenti et je l'espère quelques remarques bien senties.
Et toujours un écho instructif. Merci Benoît Galeret. À tout à l'heure. Jean-Pierre Raffarin, nous évoquions tout à l'heure la situation économique de la France. Vous avez évoqué les débats ridicules, disiez-vous, autour de la nomination de Myriam El Khomri. C'est vrai que c'est un drame français, le niveau de chômage. Accessoirement, c'est un enjeu capital pour François Hollande, qui en a fait l'arbitre de sa candidature. Et il nomme une inconnue, Myriam El Khomri, au ministère du Travail. C'est un coup de génie.
Écoutez, je crois vraiment que ce qui compte, c'est des lignes directrices, c'est de savoir où on va. Et il n'y a pas ce qui manque dans ce pays aujourd'hui, une politique de l'offre, c'est-à-dire une politique de l'entreprise pour soutenir les entreprises qui créent des emplois. Et on est dans cette situation où en agriculture, dans l'artisanat, dans les PME, comme dans les grands groupes, on a une création d'emplois dans les entreprises beaucoup trop faible. On détruit aujourd'hui des emplois.
On a eu des statistiques de l'INSEE trimestrielles là, qui montrent une stabilité du chômage à 10%. Vous le voyez, vous, par exemple ?
Mais pas du tout. On voit 60 000 faillite aujourd'hui. On voit des destructions d'emplois dans nos PME. Le secteur de l'automobile est aujourd'hui très difficile. Le secteur du bâtiment, vous avez vu les agriculteurs. Nous avons vraiment besoin d'une politique de l'offre.
Ça veut dire quoi, baisser les charges ?
Quand on compare avec l'Allemagne, puisque on voit bien que notre avenir...
Ils ont baissé les charges, les Allemands, sur les salaires.
Ils ont baissé les charges. On voit bien qu'ils ont plus d'entreprises de taille intermédiaire que nous. Ils ont un poids de la dette qui est à 45 quand nous on est à plus de 60. Quand vous prenez tous les paramètres, le coût du travail, ils sont à 32 quand on est à 35. Vous prenez tous les paramètres et vous voyez qu'on a besoin de nous harmoniser progressivement.
Mais comment on casse le cercle vicieux ?
Donc moi je dis très clairement, ce que le président de la République doit dire et faire sur ce sujet, c'est de lancer une politique avec deux ou trois mesures simples, favorables aux entreprises.
Mais il dit qu'il l'a fait avec le pacte de compétitivité depuis deux ans et le CICE, il n'arrête pas de dire ça.
Allez, tournez. Moi j'ai dans mon propre département, je peux vous citer cinq grosses PME industrielles qui ont fermé ou licencié. Et dans des secteurs, y compris des secteurs de la transition énergétique, je pense à la société Itron, qui supprime un centre de recherche.
Une
mesure simple, c'est par exemple, pendant 6 mois ou 1 an, faire un moratoire sur les résultats, l'impôt sur les résultats des entreprises. On voit bien aujourd'hui qu'on a besoin d'investissements.
Vous privez de combien de dizaines de milliards de recettes en faisant ça ?
Vous pouvez le pondérer. Vous pouvez faire ça à niveau de 10%.
Ça devient compliqué, compliqué.
Mais pas du tout.
Elisabeth, vous voulez une mesure simple. Vous en aviez une, mais elle coûte trop cher.
C'est très facile. Moi, je l'ai fait. J'ai fait, quand j'étais ministre des PME, j'ai fait baisser l'impôt de l'IS pour tous ceux qui réinvestissaient leur capital, enfin leurs résultats, dans leurs entreprises. Donc on avait deux taux d'IS, d'impôt sur les sociétés, un quand vous distribuez, l'autre quand vous réinvestissez. Nous avons besoin aujourd'hui d'investissement. C'est vrai de l'agriculture, parce qu'il faut monter en qualité, c'est vrai de l'artisanat, c'est vrai dans le bâtiment, c'est vrai pour les PME. Pour cela, aujourd'hui, on a besoin d'investissement, et pour cet effort, il y a des recettes possibles. Quand vous voyez...
Mais il en faut, Jean-Pierre Raffarin, parce que François Hollande a promis une baisse d'impôts, il vient d'annoncer 3 milliards en faveur des agriculteurs.
Je pense que l'investissement des entreprises, mon sentiment personnel, c'est que c'est la priorité.
D'impôts, vous en pensez quoi ? C'est toujours bien de baisser les impôts ou vous dites c'est de la pure démagogie électoraliste ?
Je dis que c'est bien de baisser les impôts. Ce que je vois, c'est qu'on ne pourra aller dans cette politique que si on fait des efforts qui sont très importants. Quand vous regardez les efforts que nous faisons dans notre gestion, si on enlève la dette, pour voir les choses clairement qui sont les efforts hors dette, vous voyez que nous sommes à un déficit de 1,9. Quand les Allemands sont à un excédent de 2.
Mais qui doit faire des efforts ? On a l'impression que tout le monde fait des efforts aujourd'hui.
C'est-à-dire déjà. Que nous ne faisons aucune économie véritable.
Les collectivités,
vous n'êtes pas content.
Mais on pourrait faire, si la réforme était une réforme, je pense aux grandes régions, une réforme où on fait des économies, nous serions favorables. Mais nous voyons bien qu'on ne fait pas d'économies puisqu'on a gardé ce qu'était...
Les départements.
On a gardé la fonction régionale qui est une fonction...
Les départements aussi.
Attendez, c'est plus compliqué que ça, M. Jacobizine. Vous avez aujourd'hui deux niveaux de collectivités qui se font concurrence. Donc il fallait séparer la vocation de ces deux. L'un pouvant faire de la programmation, de la stratégie, la région, l'autre faisant de la gestion. Mais pas le tourisme à la région et le tourisme au département. On séparait les vocations. Or aujourd'hui, on crée des grandes régions et on garde l'outil de gestion. J'ai Pierre Charron qui sait ici, qui sait qu'au Sénat, nous avons mené beaucoup de batailles là-dessus. Il y a des solutions qui sont toutes prêtes. Il y a un dossier au Sénat qui est prêt, c'est le gouvernement.
Il y a des choses qui sont
très simples. Je reprends avec Pierre Charron des propositions qui ont été faites au Sénat. Alors, nous avons voté, par exemple, le doublement des seuils. Vous passez des seuils de 100 à 200, de 50 à 100. Ce sont des décisions qui ne coûtent rien, mais qui seraient un signal pour les entrepreneurs très important.
Alors, vous attendez quoi sur le code du travail, on passe aux Républicains.
François Hollande va sans doute nous en parler. On nous annonce une réforme du code du travail audacieuse. Vous en attendez quoi? Et si effectivement elle est audacieuse, vous la voterez?
Bien sûr. C'est une priorité, le code du travail. Et je constate aujourd'hui, les planètes ont l'air de s'aligner. J'ai vu l'interview récente du secrétaire général de la CFDT, qui reconnaît que le code du travail est illisible et qui a l'air favorable à une réforme. Donc on est, je pense, dans un
climat... C'est quoi une bonne réforme? Il y a quoi dans une bonne réforme?
Dans une bonne réforme, c'est-à-dire c'est un socle minimal auquel on peut déroger quand il y a un accord d'entreprise. C'est ça, à mon avis,
donc
le sentiment.
Donc tout passe par l'accord d'entreprise.
Il y a un socle minimal. C'est-à-dire, il y a un accord minimal, et l'accord minimal, on peut y déroger par un accord d'entreprise. Et donc, il y a un certain nombre de dispositifs.
Il faut savoir où est le minimum.
On peut discuter, mais on a déjà un certain nombre de positions qui ont été exprimées sur ce sujet. Je pense que le code du travail, c'est en effet la mère des réformes aujourd'hui. La politique de l'offre, à laquelle j'appelle de mes voeux, ça passe par une question de fiscalité et de charges. Ça passe aussi par la réforme du code du travail. Et là, le président de la République... je prends une responsabilité forte, parce que son Premier ministre s'est engagé sur le sujet. Même si ça posera des problèmes avec le front de gauche, il faut savoir un moment ou un autre si ce qu'est la division de la gauche... Vous savez, quand on parle des divisions, on parlera peut-être de la droite tout à l'heure, mais ce qui est très important dans les divisions de la gauche, c'est que la division de la gauche, elle est idéologique entre la social-démocratie et aujourd'hui le front de gauche. Mais le Premier ministre me semble assez courageux pour aller dans la voie de la social-démocratie et d'affronter la gauche de sa gauche. Et donc là, on aurait franchement une majorité... pour réformer le code du travail. Si le président veut vraiment faire de l'audace, il a là un chantier où il peut le faire.
Vous avez bien dit tout à l'heure que la baisse de l'impôt sur le revenu, c'était une bonne idée, parce qu'il y a beaucoup de gens à droite, dont le maire qu'on avait encore la semaine dernière, qui dit que c'est de la démagogie, c'est pas eu l'urgence de baisser les impôts sur la consommation, on n'a pas les moyens de les financer, il faudrait que tous les Français paient l'impôt sur le revenu. Vous dites pas ça?
Moi, je ne dis pas tout à fait cela. D'abord, on pourrait discuter, mais je pense notamment à tout ce que sont les jeunes ménages, tous les jeunes entrepreneurs, tous ceux qui, aujourd'hui, parce que les gardes d'enfants, parce que le travail des femmes, parce que la vie... Il y a un certain nombre de pressions fiscales aujourd'hui sur la génération qui est active, qui crée de l'avenir pour notre pays. Je crois que ces gens-là sont trop pressurisés.
Il s'agit de sortir les gens de l'impôt sur le revenu.
Il y a un certain nombre d'efforts qui sont à faire. C'est pour ça que je trouve que l'allègement des impôts sur le revenu, c'est très utile. Alors, naturellement, il faut voir ça avec discernement. Mais je vous cite une catégorie de Français aujourd'hui qu'il faut soutenir, notamment tous ceux, disons, qui ont entre 25 et 40 ans, qui sont dans la situation de création de leur propre patrimoine d'une part, mais surtout du patrimoine de la nation.
Donc François Hollande, là encore, aurait votre assentiment quand il aura votre assentiment quand il annoncera demain avec des précisions.
Très franchement, je fais de la politique depuis très longtemps. J'ai une bonne expérience. J'ai été 18 ans président de région. J'ai été ministre plusieurs fois. Je connais bien mon pays. Je n'ai jamais connu une situation avec une telle gravité. Et donc les sujets qui m'ont beaucoup passionné dans le temps de la vie politicienne, qui m'ont animé aussi, les Giscard Chirac et autres débats qui ont fait mon actualité personnelle et aussi l'actualité de la France, aujourd'hui, c'est plus mon sujet. Aujourd'hui, je ne souhaite pas un président de la République faible pour qu'on puisse le battre. Je souhaite un président de la République fort pour conduire le pays. Le jour de la bataille, je mettrai toutes mes forces pour qu'on gagne. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est de faire une politique de l'entreprise et c'est de clarifier notre politique étrangère en protégeant les Français.
Alors les Républicains, quand même, votre camp se prépare à la bataille. Hein, l'alternance, vous dites, on n'en parle pas, c'est pas la peine de parler des primaires. Vous avez dit il y a quelques mois, vous étiez sur la ligne politique d'Alain Juppé, par exemple. Quand est-ce que vous direz clairement que vous soutenez Alain Juppé dans la primaire ou un autre candidat?
Je prendrai position à peu près dans un an au moment où on lancera les primaires.
Sur quels critères?
Sur le programme. Sur l'audace du programme et sur notamment les conditions de faisabilité du programme.
Parce que c'est plutôt François Fillon, la faisabilité c'est plutôt Alain Juppé, c'est ça ?
C'est trop tôt pour le dire. Moi, ce qui me paraît très important, c'est d'être capable de faire un programme dans les 12 mois. C'est-à-dire d'avoir les ordonnances, la session extraordinaire, le programme des Républicains, de ce qu'il faut faire sur le code du travail, ce qu'il faut faire sur la fiscalité, ce qu'il faut faire sur les choses essentielles, qu'on puisse le faire et qu'on dise comment on le fait.
C'est pas un étouffoir.
Parce que j'ai vu, c'est que ce qui n'est pas fait dans les 6 premiers mois, ça j'en ai l'expérience vécue, personnelle, ce qui n'est pas fait dans les 6 premiers mois est sans doute malheureux après. Qu'est-ce qu'on passe par ordonnance ? Qu'est-ce qu'on passe par référendum ?
Donc référendum, ça
qu'est-ce
peut être
qu'on
une
passe
bonne idée.
Par session ? Je pense que le référendum, c'est une bonne idée.
Je pense qu'il faut appeler les Français
sur les sujets dans lesquels on a des corps intermédiaires un peu hostiles à la réforme. Il faut appeler les Français à trancher.
Alors des précisions sur le socle commun. Christophe Jacubizine.
Je pense que ce serait utile.
Si un socle commun sur le programme que vous le souhaitez, comme le souhaite aussi Nicolas Sarkozy, est-ce que c'est pas un étouffoir ? Est-ce que finalement les primaires vont pas se résumer à un concours de beauté ?
C'est plus que de la beauté et c'est plus que de l'esthétique. Je vous dis, ce qui est dans le paysage, ce qu'on a vu ce week-end, on a une division idéologique.
Je parle
le week-end dernier sur la Rochelle.
On dira la Baule après la Rochelle.
Voilà. Belle, rebelle, sereine, qui 8 jours par an est parasitée par des débats politiques. Et là, naturellement, la division entre les Verts. Vous aviez une division à gauche qui est une division idéologique entre une extrême gauche et la social-démocratie. Ça, c'est de l'idéologie. Vous avez une division familiale actuellement à Marseille avec le Front National. Quant à nous, on a globalement, je dirais, des nuances tempéramentielles. Permettez-moi ce néologisme. Au fond, le tempérament d'Alain Juppé n'est pas le tempérament de Nicolas Sarkozy, n'est pas le tempérament de François Fillon.
Il y a des différences dans les sondages.
Cette division tempéramentielle est beaucoup moins grave, puisque au fond, en termes de programme, on va sans doute être proche sur la finalité et on aura des débats sur la faisabilité.
Donc c'est pas un concours de beauté, c'est un concours de caractère au fond.
Plus. Mais ça compte beaucoup pour un président.
Vous passez pas un peu vite sur un certain nombre de différences.
Oui.
Quand Bruno Le Maire dit qu'il faut supprimer le collège unique, Alain Juppé dit pas du tout ça. Sur la question de la baisse des impôts ou de la baisse des dépenses, les différents candidats sont pas d'accord quand même. Il y a des vraies différences.
Ça, c'est une bonne chose pour l'opposition. C'est-à-dire qu'on a fait notre entrée et on fait notre entrée aujourd'hui plutôt sur les propositions. Car en effet, il va falloir qu'on tranche un certain nombre de choses. Sur les 35 heures, sur le collège et sur la priorité à l'école primaire donnée par Alain Juppé, il y a un certain nombre de sujets.
Et vous voulez pas sur les migrants, on l'a vu tout à l'heure, tout le monde n'est pas d'accord non plus.
Bien sûr, mais ça c'est normal. Nous avons l'année 2016 pour arbitrer les grandes orientations. Ce que je souhaite, c'est qu'on ait un débat qui soit serein, respectueux et approfondi.
Vous pensez qu'il le sera ?
Je pense qu'il pourra l'être.
Ouais.
De toute façon, je vais vous dire...
Hier, vous avez tweeté en voyant la photo d'Alain Juppé, Nicolas Sarkozy et François Fillon à la Baule, un petit tweet un peu, on va dire, facétieux. Si avec ça, virgule, on ne gagne pas 3 petits points.
C'est quand je les ai vus avancer comme ça, groupés avec ceux qui étaient au troisième rang qui voulaient passer au deuxième et ceux qui étaient au deuxième qui voulaient passer au premier, qu'ils avançaient, ça m'a rappelé l'équipe de France avançant contre le haka de ses adversaires. Donc il y avait cette mobilisation, je me suis dit ça ne peut conduire qu'à la victoire. Mais très franchement,
vous le dites en souriant, parce que
c'était de la communication, c'était fait pour
c'était
vous.
C'était de l'unité de façade.
Ne vous plaignez pas, ça a été construit pour que vous ayez des satisfactions d'image.
C'est pas pour les Français ? L'unité, c'est pas pour les Français ?
Pour les électeurs de la droite
Français sont bien informés de ce qui peut se passer à l'intérieur de notre famille politique.
Rivalité,
ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes condamnés à réussir nos primaires. Nous sommes condamnés à ce que les primaires soient équitables. S'il devait y avoir une dérive, si ces primaires n'étaient pas élargies, n'étaient pas équitables, évidemment, l'un des candidats partirait en solitaire à l'élection présidentielle.
Vous redoutez d'entourloupe sur les primaires ?
Je pense qu'on ne peut pas avoir d'entourloupe. Car s'il y a entourloupe, il y aura candidature. C'est-à-dire que s'il y en a un auquel on n'autorise pas l'expression... Donc on est tous condamnés à ce que les primaires soient justes, équitables et fortes. Et qu'il y ait une grande participation. Car autrement... Il y en a un qui va se lever un moment, qui va dire les conditions d'organisation des primaires ne sont pas satisfaisantes. Je serai donc candidat au premier tour.
Il y a un homme qui n'est pas sûr que les primaires ont lieu, il n'y aura peut-être pas.
Je pense que nous verrons. Moi, personnellement,
je n'ai pas une histoire gaulliste traditionnelle, même si je suis très fidèle aux institutions de la Ve République, à certains éléments de la politique étrangère du général de Gaulle. Mais il ne me semblait pas que dans l'héritage gaulliste, l'idée primaire était substantielle. Donc, je me suis permis
Mais aujourd'hui, vous vous dites, c'est sûr, il y en aura ou c'est pas sûr ?
Je peux vous dire que s'il n'y a pas de primaire, ça veut dire que la primaire va aller au premier tour.
Vous dites qu'on n'a pas le choix, mais vous n'êtes pas tout à fait sûr qu'il y en aura. Encore une question, Jean-Pierre.
Bien sûr, parce que s'il devait y avoir une dérive, il y aurait une candidature au premier tour. Et la candidature au premier tour, la candidature au premier tour, elle porte un risque énorme. Je ne veux pas que ma famille politique connaissent ce que j'ai vécu en 2002 en voyant que Lionel Jospin a été exclu du second tour et par la présence du Front National. Donc nous devons être rassemblés. Je préfère qu'on soit rassemblés par des primaires équitables plutôt que par un premier tour hasardeux.
Encore un mot, dans notre sondage IFOP pour RTL et Figaro, Nicolas Sarkozy, qui devait tuer le match, est au même niveau dans les intentions de vote de premier tour, 25%, exactement le même niveau qu'il y a un an.
Et au même niveau qu'Alain Juppé, exactement. Sachant que Marine Le Pen est en tête et que dans les deux hypothèses, François Hollande est éliminé à l'issue du premier
tour. Est-ce que Nicolas Sarkozy peut retisser le lien ? Est-ce qu'à votre avis, il a encore des chances d'inspirer une confiance que beaucoup, lui, maintenant, ne lui accordent plus ?
Bien sûr. Vous vous souvenez de toutes les élections présidentielles précédentes ? Vous vous souvenez des 60% d'intention de vote de Giscard, vous vous souvenez de Chaban qui devait l'emporter, vous vous souvenez de Giscard qui devait battre Mitterrand, vous vous souvenez de Balladur qui devait battre Chirac, vous vous souvenez de tout ça. Donc quand on a connu tout ça, on sait que tout est possible pour les Français. Donc, les Français, le moment venu, feront leur choix, mais aujourd'hui, personne n'est exclu de la compétition.
Vous aviez dit que Marine Le Pen pouvait être élue, vous le pensez toujours qu'elle le peut ?
Je crois qu'il y a un danger dans notre pays actuellement, c'est qu'il existe toujours une forme d'anti-sarkozisme et est né depuis quelque temps un anti-Hollande. Mmh. Et que ces deux formes de rejet sont très dangereux parce qu'on peut voir des gens qui, à un moment ou un autre, préfèrent le Front National plutôt
Donc
que
la personne en mauvaise configuration, c'est Hollande-Sarkozy-Le Pen.
Nous devons être extrêmement vigilants. C'est pour ça que les primaires, je souhaite qu'elles aient lieu et qu'elles soient équitables, parce qu'elles nous mettent à l'abri, avec un seul candidat, de l'élimination pour le deuxième tour de la présidentielle.
Monsieur le Premier ministre, je vous propose qu'on accueille maintenant Benoît Galeret, qui a regardé les réseaux sociaux, qui a lu les messages qui ont plu, si je puis dire, depuis le début de l'émission, en réaction à vos déclarations. Benoît Galeret, bonjour.
Bonjour. Vous notiez, monsieur le Premier ministre, en début d'émission, une certaine radicalité sur les réseaux quant à la question des migrants. Eh bien, je vous le confirme, c'est devenu un gimmick maintenant sur les réseaux. Et vous, est-ce que vous en accueillez chez vous ? C'est Stay Safe qui vous dit « Combien prenez-vous personnellement de migrants sous votre toit ? Sinon, merci de ne pas participer au débat. » Je traduis en langage poli. Êtes-vous prêt à accueillir des migrants chez vous ? Demande Cyril. On se souvient en effet que vous proposiez d'accueillir des migrants dans un certain nombre de villages. On frise le n'importe quoi, arrêtez, le FN se frotte les mains, dit Chantal. Un pays incapable de s'occuper de ses SDF et de ses 4 millions de chômeurs va accueillir des cohortes infinies de migrants, se désole déjà Albert. On en a marre de ces donneurs de leçons. On voit aussi, vous dit Annie, on voit aussi qu'ils ont l'impression qu'on essaye de culpabiliser leur position de fermeté ou de fermeture. Ouais, ils pensent pas comme nous, on a presque honte. Bah voyons, la notion de démocratie, c'est quoi ? Répond Régis quand vous dites qu'il va falloir ouvrir un peu son humanisme. Adrénaline dit, je compare la prestation énergique de Bruno Le Maire avec celle de Raffarin, qui ne fait que constater sans prendre de position. Elle trouve que vous auriez pu être un peu plus concret. Julien dit carrément, Raffarin devait prendre sa carte à l'UDI, ce qu'il vous trouve un peu mou sur cette question. Donc voilà pour le déferlement sur les migrants. Cyril vous demande, quand les quotas seront atteints, vous faites quoi ? Vous rejetez les autres qui arrivent, vous fermez les frontières.
Et évidemment, le quota c'est un plafond. Le quota c'est une limite. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'appel.
On retrouve ce problème de quelques mois peut-être.
Non,
alors.
Mais les quotas c'est des quotas de répartition, c'est pas des quotas en valeur absolue. C'est 1%.
Ça dépend desquels on parle. Il est clair qu'à partir du moment où on est hors quota, on est hors règle, donc on doit être reconduit à la frontière.
Encore un message ?
Enfin, oui, pour ce haut commissaire aux réfugiés dont vous parlez, Delphine Soupir, c'est vrai qu'on manque de structure. Elle s'est dit, mais peut-être que vous voudriez incarner ce haut commissaire. Est-ce que vous êtes intéressé par le poste si jamais il se crée?
Je suis complètement désintéressé sur tous les postes actuels. Et donc c'est pour ça que ma parole est libre. Et je ne suis candidat à rien. Et donc je ne demande rien, mais je parle librement. Et voyez, ce qui me vraiment me préoccupe dans notre pays aujourd'hui, c'est que sur les questions de réfugiés, comme sur les questions d'immigration, on a besoin d'un débat très serein. On a
vous trouvez là, par exemple, que ces réactions des Français, qu'on voit aussi d'ailleurs dans les sondages...
Très franchement, moi,
vous savez, elles ne sont pas sereines, parce qu'ils vous trouvent un peu en deçà de la main.
Donc je suis en contact direct avec eux, je vois bien qu'il y a un potentiel extrêmement violent. Même ce que vous avez lu est probablement trié sur le volet par rapport à certaines remarques qui sont sans doute beaucoup plus directes que ça. Je comprends cette démocratie directe. Il faut qu'elle puisse avoir lieu parce qu'elle nous indique nous aussi la gravité des problèmes. Mais sur le fond des choses, très franchement, la question c'est pas de savoir si Monsieur X ou Madame Y va accueillir quelqu'un chez elle, c'est est-ce qu'on a dans ce pays des dirigeants capables de conduire une politique qui nous permette de faire honneur à l'image de la France et en même temps de pouvoir respecter les idéaux des Français. Et donc c'est aujourd'hui, est-ce qu'on est capable d'avoir cette politique-là? Une politique étrangère, une politique d'accueil, une politique d'immigration, une politique de droit d'asile. Donc au fond, c'est bien beau de toujours faire du spectacle et de dire « moi je vais donner ceci, moi je fais cela, moi je signe telle pétition, moi je vais avoir le cœur sur la main », le fond de l'affaire. Nous sommes dans la politique. Qu'est-ce que c'est que la politique? La politique, c'est l'organisation d'un pays pour faire face à la violence, pour éviter la violence. Et donc, on a besoin aujourd'hui d'une politique nationale qui évite la violence. Parce que des réactions ajouter de la violence à la violence, et au fond, on ne résout rien.
Mais il y a une exigence morale et puis il y a une exigence politique. C'est le juste équilibre qu'il faut trouver entre les deux. Aujourd'hui, il existe.
Mais sur ce sujet, je pense que la morale peut retrouver la politique. Je pense que la morale, y compris la morale de la France, les valeurs de la France, aujourd'hui, elles peuvent être au rendez-vous de la politique. C'est-à-dire d'être capable
d'accueillir... Mais la France, elle est faible par rapport à l'Allemagne qui aujourd'hui sait dire on accueille. Nous, c'est un aveu de faiblesse.
Mais déjà,
il reste quelques secondes.
Déjà de dire on accueille. Non. On accueille pour l'avenir. On accueille pour l'intégration. On n'accueille pas pour la misère.
Personne n'ose dire la France est forte pour accueillir les réfugiés aujourd'hui.
Donc, mais on peut. Il y a des proportions pour lesquelles on peut. Moi, je pense que dans un certain nombre de territoires de France aujourd'hui, on peut accueillir pour l'avenir. Donc, on peut avoir une vision d'intégration de l'accueil. Mais naturellement, ceci doit être maîtrisé. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où l'immigration d'un côté, l'asile de l'autre, sont mal maîtrisés. C'est ça qu'il faut obtenir. Et ça, c'est de la politique. Et ça demande autre chose que simplement de l'émotion.
Oui, et tout le monde, c'est vrai, n'est pas sur votre ligne. Dans votre famille, les Républicains. Merci beaucoup, Jean-Pierre Raffarin, d'avoir été l'invité de ce grand jury. Merci beaucoup, Alexis Brezet, directeur des rédactions du Figaro, Christophe Jacubizine, chef des services politiques de TF1 et LCI. On se retrouve la semaine prochaine, bien sûr, à 12h30. Sachez que le grand jury est rediffusé en intégralité ce soir sur LCI à 18h30. Merci aussi Benoît Galeret. On vous retrouve la semaine prochaine. Et le meilleur du grand jury sur RTL entre 18h15 et 18h30. À la semaine prochaine. Au revoir.